Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog et il y a beaucoup de choses vues dont je vais parler. Je vais aller assez vite parce qu'on va y passer 1000 ans. Quelques coups de cœur, quelques déceptions. Mais je commence tout d'abord par vous remercier pour l'accueil fait à la vidéo sur Kiss, qui a eu un écho que j'avais pas du tout prévu. Je pensais absolument pas franchir les 1000 vues, on va dire au bout d'une semaine. Pour plusieurs raisons. Bref, quoi qu'il en soit, merci infiniment également pour vos commentaires qui étaient particulièrement touchants et intéressants sous cette vidéo. Et oui, j'ai oublié plusieurs trucs. J'ai oublié des objets. Au moment où je passais dans mon bureau, je vous montrais les conneries Kiss. Voilà, je me baladais, mais je fais putain, j'ai oublié de montrer ça. Ouais. C'est pas grave. Un peu plus grave, j'ai oublié de parler de tous mes souvenirs de concert de Kiss, l'homme. Vraiment n'importe quoi. On verra. Écoutez, peut-être que je ferai une petite vidéo bonus un jour. C'est pas ultra grave non plus, mais bon, ça m'a un petit peu contrarié. Merci également pour tous les messages d'anniversaire que j'ai reçus. Parce que c'était mon anniversaire mardi, un truc comme ça. Et voilà. Et d'ailleurs, j'ai eu quelques cadeaux bien what the fuck, comme on les aime. Ma chérie, d'abord, qui m'a offert ce magnifique Actarus qui est assis en tailleur. C'est une sorte de, comment dire, de Bouddha pour la sagesse. Et tiens, la soucoupe, enfin une réplique de la soucoupe dans ses mains, c'est tellement étrange. Je trouve ça fabuleux parce que c'est super chelou, quoi. Alors, la boîte est somptueuse. La figurine également, d'ailleurs, vraiment très très belle. Donc j'étais ultra heureux. Et Stéphane Mialet, qui m'a envoyé un cadeau également pour mon anniversaire. Alors, totalement en lien avec ma vidéo, puisqu'il s'agit donc d'une figurine Minix de Gene Simmons, qu'en plus je prévoyais évidemment d'acquérir. Donc merci à toi Stéphane, tu es vraiment un grand fou. Et ce coup-ci, j'enchaîne avec les choses vues. Alors récemment, oui et non, parce que le dernier JDV, il date un tout petit peu. J'ai pris des notes, car je suis un professionnel. Le Frankenstein de Guillermo del Toro, que j'attendais un peu trop confiant, je pense. Alors, le film est bon, hein. Je ne vais pas vous résumer l'histoire de Frankenstein, je ne pourrais pas cet affront. On a Oscar Isaac, que j'aime beaucoup, et qui est remarquable. Alors, le film est sublime, c'est ultra beau. Il y a plusieurs fois où je me suis fait la remarque, mais qu'est-ce qu'il est fort, Guillermo, vraiment. Des plans, tout. Et alors, en plus, une réelle, comme il sait faire, en fait, c'est-à-dire que c'est à la fois très inspiré et à la fois classique. Mais classique au sens, les grands classiques. Enfin, t'as l'impression de voir un film, travail d'orfèvre, quoi. Vraiment, hein, bon. Casting au top, Mia Goth aussi que j'aime beaucoup et qui est nickel. Je peux pas dire que j'ai trouvé le temps long ni rien du tout, mais j'ai eu un problème avec le design de la créature. Voilà. Dès que je l'ai vu, en fait, je l'ai trouvé trop lisse, trop propre, au niveau même des coutures et tout. Enfin, il est beaucoup trop clean, quoi. J'y crois pas. Je crois pas que, enfin, quand je le regarde, voilà, je ne crois pas que c'est un assemblement de parties de corps différents, etc., etc. Le choix du rendu, voilà, le côté Chip and Dale, et moi, ça m'a un peu, un peu chiffonné, quoi. Mais ça m'a notamment, alors que l'acteur est très bon, hein, je précise. Bah, je sais pas, j'ai pas eu d'empathie particulière et du coup j'ai regardé le film de façon très très détachée. Alors que le mythe de Frankenstein, je trouve fascinant et très triste. Enfin voilà, c'est un drame, bon bah là aussi, hein, mais je sais pas, il y a un truc qui a vraiment vraiment pas fait sur moi. Et j'ai regardé un petit peu des interviews, des trucs comme ça, et j'ai donc compris, parce que au début je me suis dit, mais pourquoi ce choix d'un Frankenstein ultra stylé, beau gosse, qui fait pas du tout pitié, en fait, quand tu regardes. La réponse de Guillermo del Toro, c'est que bah, d'abord, il voulait changer. Donc oui, alors ça, évidemment, c'est tout à son honneur, mais du coup, tu prends un risque. Enfin, il voulait complètement s'éloigner en fait de cette orientation-là, qui a été toujours très très respectée par rapport au livre de Shelley. Mais il voulait aussi partir du fait que c'est une création voulue par un autre homme, et que donc, dans son esprit, Frankenstein, donc pas la créature ce coup-ci, mais Frankenstein vraiment, lorsqu'il conçoit cet homme, il le pense idéalisé. Donc, il va prendre voilà, le plus beau des visages, le plus beau des torses, etc., etc. Ok, mais bon, moi j'ai pas kiffé, j'ai pas accroché à ça. Alors, on va me dire, Alex, tu chipotes, mais en fait tu peux pas chipoter puisque c'est l'axe central du truc. Et ouais, bah moi j'ai pas aimé en fait, je n'ai pas apprécié ce choix, mais je le respecte complètement. Hein, voilà, c'est évidemment. Mais on peut pas dire que le film, je le reverrai jamais. Enfin, ça m'a. Je me suis pas du tout extasié comme énormément de gens autour de moi. Ouais, ma foi, tant pis pour moi. Alors bon, le Frankenstein de Guillermo del Toro, inutile de vous dire que je vous le recommande quand même. Voilà, c'est pas parce que moi j'ai été déçu, parce que c'est une espèce de. C'est un très bel ennui que j'ai un peu vécu, quoi, mon expérience de visionnage. Je me suis vraiment extasié sur tous les plans, etc. Mais je me suis un peu ennuyé. J'ai vu également Black Phone 2. Alors là, waouh, qu'est-ce que c'était de la merde. Je sais que ça a bien plu hein, à certaines personnes. Moi, déjà, le premier, j'avais moyennement aimé. Vraiment, hein, l'influence Freddy, les attaques dans les rêves, ou quand tu te réveilles, oh mon Dieu, je me suis réellement blessé à mon bras. Bon. Le truc de la cabine téléphonique, même les séquences de cauchemars, enfin de rêves, quoi, mais qui sont vraiment des rêves. Bon, vraiment, non, j'ai pas apprécié, mais je suis pas fan de ce qui est en train de devenir une licence. Hein. Voilà, donc je comprends complètement que ça ait pu satisfaire certaines personnes, mais en plus, moi j'y ai pas vu la profondeur que certains y ont vu, hein. Enfin, je veux dire, au niveau de l'intrigue, je veux dire, notamment. Non, je n'ai pas trouvé que c'était particulièrement finaux ou torturé. Enfin, torturé, à côté, les groupes de la nuit, c'est c'est un autre level, pour moi, je veux dire, à l'écriture, hein, dans les thématiques. Mais voilà, bof, bof, quoi. Bon, par contre, ça joue bien, so what, pour moi. J'ai vu également une bataille après l'autre. Putain, je suis un petit peu vanté d'avoir eu des coups de cœur, j'espère qu'ils vont venir. Une bataille après l'autre, figurez-vous que je l'ai arrêté avant la fin. Ah ouais, carrément. Mais alors, avant la fin, j'ai regardé comme 1h50. Hein. 1h50, bon, bah, il m'en restait encore presque 1 heure. Pourquoi faire? Pour moi, hein, je veux dire, évidemment. En plus, Paul Thomas Anderson, c'est un réal que j'aime beaucoup. Magnolia, j'avais vraiment énormément apprécié. Boogie Nights, j'adore ce film. Et There Will Be Blood aussi. Donc voilà, il y en a que j'aime moins, mais ces trois-là, pour moi, waouh, c'est des immenses films. Voilà, j'étais ultra confiant. Le sujet me passionnait pas des masses, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, révolutionnaire, enfin aux États-Unis, démocrate, mais c'est plus que démocrate, là, c'est vraiment la gauche extrême, enfin tout ça. Face à, au réac de ouf, la droite extrême, elle aussi, pardon, j'ai pu parler. DiCaprio, alors, voilà, donc l'histoire d'un type qui a fait partie de mouvements révolutionnaires, traqué par la police, évidemment. Des années plus tard, sa fille va se retrouver dans une situation très compliquée, je veux rien spoiler, et le passé va se rappeler à lui, en gros. On a également Sean Penn, dans un rôle de vrai connard. Et il faut bien reconnaître que il est très bon. Moi, j'aime beaucoup Sean Penn, donc je suis pas très surpris. DiCaprio, il m'a régalé. Il y a des scènes incroyables. Oh là, vraiment, mais quel acteur de dingue. Hein. Je sais qu'à la vie, il pose problème sur plein de sujets. Mais dans son métier, dans sa profession, dans son art, quoi. Mec, il est vraiment. Enfin, je sais pas, quoi. Il est d'un niveau qui pousse au respect. En tout cas, voilà, quelques scènes que j'ai adorées, mais c'est des scènes de. Comment dire, voilà, pour son acting, tout ça, enfin la scène où il s'énerve au téléphone, parce qu'il a oublié les phrases code pour. J'en pouvais plus, c'est fabuleux, vraiment fabuleux. Parce que rien que pour cette scène, j'ai envie de dire que le film a été vu, mais je ne l'ai pas vu en entier, alors qui suis-je pour vous l'imposer? En tout cas, bref. Globalement, j'avais cru comprendre que c'était beaucoup plus intelligent que ça. En fait, c'est volontairement un peu tarantinesque, c'est-à-dire que bon, c'est un film d'action en fait, enfin plus ou moins, enfin mais c'est pas ultra réfléchi, enfin c'est pas voilà, je pense que c'est pas le but. Et on est dans les clichés de ouf, d'un côté comme de l'autre. Hein, donc alors par contre, ça tape un peu sur les deux camps. C'est pas comment dire. J'ai lu que c'était un film politisé, tout ça. Oui, il parle de politique, donc oui. Mais c'est une comédie, enfin c'est une comédie d'action, Voilà, avec beaucoup de scènes drôles, enfin, mais beaucoup, beaucoup. Hein. Bref, j'ai pas aimé, je l'ai arrêté, je vous dis, avant la fin. Principalement parce que vraiment l'intrigue, pardon, est très très beau, enfin, je trouve. L'intrigue en elle-même, t'es pas passionné, enfin, parce que tu regardes, quoi. Enfin, moi non, pardon. Donc voilà, là, je vous recommande pas, par contre, parce que 3 heures, il faut vraiment vouloir. J'ai oublié de parler d'un truc qui m'a horripilé, qui a grandement gâché mon visionnage aussi, même si c'était incomplet, c'est la musique. La musique, c'est une souffrance digne de Guantanamo pour moi. Vraiment. Des notes de piano jazzy dissonantes non-stop et très fort. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu te dis, la musique, et le volume de la musique, je veux dire, est plus fort que le volume de l'acteur qui parle. Moi, je devais tendre l'oreille pour comprendre ce que disait DiCaprio par moment, parce que tellement la musique était forte. J'ai détesté ce choix, c'est fait exprès évidemment, mais je me doute bien. Et j'ai détesté ça, et aussi, elle est incessante, mais réellement. Et c'était presque devenu gaguesse, parce qu'à un moment, je comptais les secondes, dès qu'il n'y avait plus de musique. Et ben, je suis presque jamais arrivé à une minute complète sans musique. Au début, je veux dire, après j'ai laissé tomber, j'ai arrêté de... Mais bref, en tout cas, pas du tout un coup de cœur ni rien, quoi. Un peu comme le Frankenstein, du coup. C'est vraiment... Mais non, mais putain, c'est les boules. Qu'ai-je vu d'autre? Ah, alors, un film un peu plus ancien. Rapace avec Sami Bogela et Mallory Vanek, j'espère que je n'écorche pas leur nom. Je vais noter rapidement le pitch. On suit en fait donc Samuel qui est un journaliste pour comment s'appelle le nouveau détective, vous savez ces revues ou c'est détective je crois tout court, enfin voilà, bref, un truc de fait divers hein, complètement. Hein. Donc les mecs sont à la fois journalistes, un peu fouille merde et enquêteurs, et ils se traînent en plus voilà, la réputation de ne faire que qu'inventer des histoires basées sur rien avec des photos génériques, des trucs comme ça, alors que, en tout cas c'est le parti pris du film, tous les faits divers qui sont traités dans ce magazine sont réels. Donc ce type, Samuel, va enquêter accompagné de sa fille, Ava, je crois, qui est stagiaire dans ce même magazine. Il va enquêter sur une attaque à l'acide qui a eu lieu sur une jeune fille. Et au fil de cette... Enfin, très rapidement, en fait. Hein, on va lui dire de laisser tomber, que c'est pas intéressant, que c'est pas une affaire qui est claire et qu'il n'y a rien à trouver. Enfin, voilà, si la police a pas trouvé et que... Bon, bref, faut laisser tomber. Mais il va s'acharner, se mettre en danger et mettre donc également sa fille en danger qui l'accompagne. Et c'est à la fois... Alors, bah, j'ai énormément aimé. Hein. Alors, là, vraiment, voilà, c'est peut-être ma première vraie reco, quoi. Voilà, il y a quelque chose de tendu tout au long du film. Mais alors, j'avais... Enfin, ça fait longtemps que j'avais pas vu ça dans un film français. J'ai trouvé que les deux, là, le tandem, le père et sa fille, leur relation est ultra crédible, ultra touchante. Il y a une scène, notamment en fin de soirée, dans un restaurant où ils se retrouvent un peu prisonniers. Oh là là, je me suis régalé. Et ça joue très 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 bien. C'est très beau, il y a aussi des séquences de nuit ultra belles. Enfin bref, très belle surprise, Rapace. Et vrai reco, complètement. Qu'ai-je vu d'autre? Ah oui, Roofman avec Channing Tatum et Kristen Dunst. L'histoire vraie, enfin, c'est un tout petit peu romancé, mais visiblement, en tout cas, dans les axes du film narratif, c'est totalement vrai, fidèle au fait, je veux dire. L'histoire d'un type qui braquait des McDonald's en s'y introduisant par le plafond, qui va se faire choper à un moment donné et va parvenir à s'échapper. Je vous spoil pas, hein, là, c'est vraiment le début. Et va se planquer, mais longtemps, je vous dis pas la durée, mais c'est long, dans un immense Toys R Us. Et parallèlement à ça, il va tomber amoureux d'une femme, et là c'est très... Alors qu'il est donc traqué, mais alors vraiment, il est très activement recherché. Voilà, ça va être du coup hyper compliqué, parce que au tout début, il est juste censé rester là juste un mois pour le temps que ça se calme. Mais bon, d'abord, ça se calme pas. Et puis, il a besoin d'aide et en fait, ça va devoir durer beaucoup plus longtemps. Et donc, ce quotidien, enfin cette vie planquée au centre de ce Toys R Us, c'est absolument génial. J'ai beaucoup aimé. Il y a quelque chose de très touchant dans cette histoire même. Hein, complètement, je précise que c'est un mec qui est pas c'est pas une mauvaise personne en réalité. Alors on va dire bah si. Bon. Mais voilà, par exemple même les témoignages de ces braquages, bah, c'est que le mec était vachement attentionné, vachement gentil. Voilà. Et alors, un truc que j'ai beaucoup aimé, mais ça, c'est mon côté, je sais pas. Bref, à la toute fin du film, on a des images d'archives. Et ça, j'adore. On a beaucoup d'images d'archives et également des interviews, enfin des extraits d'interviews de tous les gens qu'on a vus dans le film, quoi. Mais les vrais, ce coup-ci. Et qui parlent de, voilà, leurs souvenirs, ce qui s'est passé. Ah, j'ai trouvé ça vraiment très, 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 très cool. Toute cette fin-là est très émouvante. Sincèrement. Donc ça, vrai reco, Wolfman, bon, c'est un film léger, donc, hein, mais très intelligent et touchant, etc. etc. Qu'ai-je vu d'autre? Ah, tout petit film sorti sur Prime Video, Xeno, réalisé, écrit et produit et monté, voilà, calmez-vous, par Matthew Lauren Oates, je lis parce que je l'avais noté pour pas charcuter son nom, avec Lulu Wilson, cette actrice qui jouait dans les films Becky. Voilà, si vous vous souvenez, je vous avais chroniqué le premier il y a très longtemps, hein, c'était le début de ma chaîne, je crois. J'avais absolument détesté, mais c'est pas la faute de. Enfin, l'actrice est là en tout cas, donc Xeno. Elle joue très bien. Petit film donc sur une sorte de mini petit météorite, mais en fait non, qui s'écrase dans le désert et abritait un extraterrestre, une créature pas mignonne. Hein. C'est pas vraiment E.T., même si le scénario pendant un certain temps ressemble pas mal à E.T. Là, on est plus proche dans le design de la bête de Alien. Et cet ado, donc interprété par Lulu Wilson, va tomber sur cette créature et passer l'effroi, tout ça, être un peu fasciné et puis interagir avec elle. Et la créature va s'attacher à elle. Donc elle va essayer de l'abriter pour la protéger, etc. Sachant que, bien évidemment, très rapidement, la zone est fouillée par, voilà, on ne sait pas trop qui que quoi, hein, les Men in Black ou autre chose, enfin des actions du gouvernement en tout cas. Et donc elle va devoir cacher cette créature qui est quand même extrêmement dangereuse et pas très petite, hein, en plus. Et en parallèle de ça, elle a une vie vraiment de merde, avec un père alcoolique ultra détestable et une mère dépressive. Alors on va comprendre pourquoi, mais ça je vous le dis pas parce que ce serait du spoiler. Donc voilà, une vie vraiment difficile et on va suivre tout ça. Et alors c'est absolument pas original, je dis tout de suite quoi, même la fin, bon, voilà. Mais ça s'est regardé, enfin moi je l'ai regardé avec beaucoup de plaisir. Ça sent que c'est vraiment, comme je vous le dis, un tout petit film. Et ben j'ai trouvé que la photo était pas dégueu, la créature, il y a des moments où bon, voilà, mais il y en a d'autres, il y a d'autres scènes où franchement ça le fait, quoi. Et une fois de plus, il n'y a pas d'argent. Donc, non, moi j'ai vraiment, vraiment apprécié la proposition qui m'était faite. J'ai passé un très bon moment devant ce film, mais je ne le reverrai jamais. Et c'est pas un film original ou voilà. J'ai quand même à le dire. J'ai vu que les moyens ne sont pas terribles et je peux comprendre. Je peux comprendre parce que c'est vraiment bateau. Par contre, l'intrigue. Ultra bateau, quoi. Mais dans le ton, je sais pas, c'est bien fichu. Je sais pas comment dire. Qu'ai-je vu d'autre? Good Fortune avec Keanu Reeves, Aziz Ansari et Seth Rogen, que j'avais adoré dans The Studio. Encore une belle surprise, un ange gardien pur et naïf qui est interprété par Keanu Reeves et qui souhaiterait avoir des responsabilités un peu plus... un peu plus conséquente pour aider les gens dans le besoin, voilà, c'est les âmes perdues ou ceux qui sont en danger, etc. Enfin, il va entreprendre d'agir alors qu'il n'est pas censé le faire pour faire réaliser à un pauvre type qui s'appelle Arge et qui galère de ouf, mais alors c'est vraiment horrible, qu'il doit apprendre à apprécier sa vie parce que et lui c'est un ange, donc bon. Et pour ce faire, sachant que ce Arge était en contact avec, alors j'ai oublié son prénom, mais une personne qui ne fout pas grand chose de ses journées et est extrêmement riche et a, voilà, à peu près tout ce dont on peut rêver, une magnifique villa sur les collines d'Hollywood. Il va donc, cet ange, interprété par Keanu Reeves, proposer à Arge de changer de vie pendant quelques jours, je crois, avec cette autre personne qu'il envie tellement, pour lui faire comprendre que c'est pas une solution en fait, et que non, il ne serait pas plus heureux, que finalement ça va lui apprendre à aimer sa vie telle qu'elle est, et voilà, à se battre et à comprendre que sa vie a de la valeur, etc. Et donc ce transfert va avoir lieu. Donc là on est un peu dans Freaky Friday, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc là ça va être, enfin tout va se passer comme pas prévu, voilà. quoi cette phrase? Tout va se passer comme pas prévu, si bien que Keanu Reeves va se retrouver déchu, balancé sur Terre, obligé de survivre comme un humain. Et face à lui, bah, ce Arge, lui va trouver que bah, si, là, il est très bien, en fait, il va plus du tout vouloir reprendre son ancienne vie. Ça donne lieu à des séquences de dialogue absolument géniales. J'ai beaucoup ri. J'avais lu un peu partout que Keanu Reeves était très touchant et qu'on était évidemment hyper loin de John Wick. Et oui, en effet, on est loin de John Wick, ça c'est sûr. Mais oui, il est très touchant, mais très touchant. Et c'est une autre facette de son jeu là, qu'on redécouvre. Et sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Grosse reco, ça, Good Fortune, ça m'a... En fait, ça m'a rappelé certaines comédies des années 80-90 qui étaient à la fois réellement drôles et qui en même temps te racontaient quelque chose pour de vrai et avaient des séquences très touchantes et tout. C'est presque un truc à la John Hughes, quoi. Mais j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu également, la mini-série de Beast in Me avec Matthew Rhys et Claire Danes. Matthew Rhys que j'adore, que j'adorais en tout cas dans toute la saison, toute la série de The Americans. Là, on va suivre, ça c'est vraiment une immense reco. J'ai binge-watché ça, mais j'étais scotché, quoi. On va suivre une nana qui est écrivain et qui a eu un énorme best-seller, mais n'arrive pas à écrire son deuxième roman. D'autant que son premier était en fait très autobiographique. Voilà, c'est pas elle a pas, comment dire, elle écrit, mais elle a besoin d'un matériau dans la réalité, visiblement. Et elle va se retrouver voisine d'une espèce de, comment dire, c'est pas un Elon Musk, mais enfin c'est un mec qui a énormément réussi, voilà, dans le business, tout ça, et qui est très controversé parce que sa femme a disparu quelques temps auparavant, et des gens le soupçonnent d'être responsable de sa disparition, enfin de l'avoir tué, quoi, en fait, tout simplement. Et c'est un type qui est très grande gueule, enfin pas très grande gueule, mais très... il pose problème sur plein de choses, quoi. Très nihiliste, très... voilà. Ils vont, se rencontrer, ces deux-là. Donc, vraiment, rien ne lie, a priori, quoi. Elle, c'est une intello, on la devine, voilà. Pleine d'idéaux, enfin bon, voilà. Lui, il est revenu de tout. Il y a une scène géniale où il lui dit « L'espoir, ça n'intéresse plus personne comme sujet de livre. » Il y a quelques punchlines, mais parfaites. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Très drôle. Cette scène était vraiment très, très drôle dans le restaurant. Il a l'air tellement sincère. « L'espoir, ça n'intéresse plus personne. » Magnifique. Grosse reco de Beast in Me sur Netflix, si vous ne l'avez pas encore vu. Et on a bientôt terminé, figurez-vous, Shelby Hawks, écrit et réalisé par Chris Stockman, récemment sorti en salle, d'ailleurs même, je crois. Enfin, moi je l'ai vu partout sur Internet. Hein. Et c'est drôle parce que ce mec-là, donc un YouTuber américain, je suis abonné à sa chaîne depuis au moins 5 ans. Alors c'est vrai que je ne regarde pas toutes ses reviews de films et tout, mais en tout cas, il a été très discret parce que je ne savais pas qu'il avait fait un film. Je l'ignorais complètement. Là. Donc, il a réalisé son premier film. Je trouve ça carrément très cool. Et même si, alors, sans être mauvais, j'ai pas énormément apprécié le truc, quoi. En gros, on va suivre une équipe de jeunes youtubeurs spécialisés dans les enquêtes paranormales. En mode, on s'incruste dans des vieilles baraques hantées. Mais bon, eux, très vite, ils ont la réputation de pas être sérieux, enfin que leurs trucs sont un peu bidons, parce qu'il y a trop d'éléments spectaculaires dans chacune de leurs vidéos. On dit, ouais, ça quand même un peu énorme, quoi. Bref, le film démarre, on va comprendre qu'il y a eu un drame lors du tournage d'une de leurs émissions, et ils ont tous disparu, donc voilà, et on va retrouver leur corps, à l'exception de celui de... celle qui présentait, enfin la présentatrice vedette, on va dire, de cette chaîne YouTube, et donc elle continue d'être recherchée, quoi. Sauf que, les années passant, l'enquête piétine, on laisse un peu tomber, etc. Et on va suivre sa sœur qui, alors pour des raisons que je ne vais pas spoiler, évidemment, donc longtemps après, va reprendre le truc et se remettre à sa recherche très activement. Et on va aller de découverte en découverte et comprendre que derrière tout ce drame, ces drames, se cache en fait une sorte de malédiction et surtout un mal qui dépasse l'entendement. Enfin là on est dans le voilà, une force occulte très puissante, qui que machin, vous verrez bien. Donc voilà, alors pour un premier film, sincèrement, ça se tient. Il n'y a pas à rougir. Je peux pas dire que j'ai pas. Enfin, j'ai pas détesté, quoi, mais je l'aurais oublié extrêmement rapidement. Il ressemble à énormément de films que j'ai vus ces dernières années sur le même genre de thème. Et la fin est à la fois jolie, enfin, c'est une fin assez poétique qui m'a rappelé d'ailleurs la fin de cet autre film. J'ai plus le nom parce que je suis qu'une merde, mais quand je ferai le montage, je m'en souviendrai et je vous mettrai l'affiche que j'avais beaucoup aimé celui-là par contre. Alors, si vous ne l'avez pas vu celui-ci, foncez. Mais voilà, Shelby Hawks, bon, donnez-lui sa chance, hein, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment apprécié. C'est pas nul, hein, enfin, je peux vraiment pas dire que c'est nul, mais je peux dire que ça manque d'ambition au niveau de l'histoire et tout, je trouve, hein, vraiment, bref. Voilà. Et j'ai vu également Dream Eater, alors là, Dream Eater, hein, encore un... Oui, parce que je vous ai pas dit, mais Shelby Hawks, c'est en mode fan footage. Et Dream Eater, c'est fan footage aussi, mais même encore plus hardcore. Là, on est vraiment entre le premier Paranormal Activity et le premier Blair Witch, quoi. C'est vraiment, c'est un couple, en fait, hein, qui loue une baraque dans la nature, dont la nana, en fait, a décidé de filmer pour essayer de l'aider, son chéri, qui est victime de somnambulisme, mais de somnambulisme, comment dire... très inquiétant. Et notamment, ils sont suivis aussi pour essayer de traiter, enfin de trouver un traitement pour gérer ça, parce que il se met en danger lui-même et potentiellement il met en danger aussi les gens qui l'entourent, et donc sa chérie. Notamment, il a déjà porté atteinte à sa propre vie, et on va comprendre que voilà, il peut se montrer extrêmement menaçant et violent durant ces crises de somnambulisme. Donc voilà, on a un montage dans la journée, il est très cool, il sort beaucoup de vannes de fesses. Et on assiste donc bien évidemment chaque nuit à une crise, et voilà, ça va aller évidemment crescendo, vous vous en doutez. Mais d'abord, les deux jouent très bien, on y croit de ouf, et ça va assez vite. Je sais plus combien de temps ça dure, mais voilà, ça traîne pas du tout. Il y a quelques éléments extrêmement intéressants qui sont abordés. Et j'étais assez optimiste. Au bout d'une heure, je me suis dit, putain, mais en fait, on regarde un truc vraiment cool. Je précise que le film, il fait le buzz, il fait pas mal de buzz, hein. Parce que Eli Roth, en fait, est tombé dessus et a décidé de rejoindre alors, le film était déjà fait, mais il a décidé de rejoindre le projet, d'apporter de l'argent et de surtout de s'occuper de sa promo. Et c'est pour ça qu'en fait, on en entend un peu parler. C'est parce que voilà, Eli Roth s'est mêlé au truc. Je précise que c'est un, quand je dis que c'est un petit film, c'est un film qui, en tout et pour tout, a coûté 40 000 dollars. Voilà, ça laisse rêveur. Pour 40 000 dollars, c'est balèze. Alors, moi, je le recommande complet, mais je tiens à dire que la fin m'a énormément déçu. Mais énormément. C'est fâcheux parce que j'ai lu que la fin, on la doit à Eli Roth. À l'origine, le film ne se terminait pas de la même manière. Et Eli Roth a dit « Ah, la fin, c'est dommage, quand même, gna gna gna. » Il leur a suggéré une autre fin, donc j'imagine celle que nous avons actuellement. Et voilà, et en fait, je crois qu'ils sont deux, ceux qui sont à l'origine de ce projet. Ils ont trouvé que c'était une super idée, qu'apparemment, en plus, ils avaient eu, mais qu'ils n'avaient pas pu mettre en scène. Enfin bon, bref, peu importe. Du coup, ils ont modifié à la fin. Alors, j'ignore complètement comment ça se terminait dans le premier montage, mais je ne pense pas prendre de gros risques en disant que, personnellement, je suis certain que j'aurais préféré leur première fin. Parce que là, celle-ci, vraiment, là, c'est tellement... En plus, il y a une petite incohérence, mais là, ce serait du spoil que de vous expliquer pourquoi. Je me suis dit, quoi ? Mais pourquoi ? Mais enfin, ça n'a pas de sens. Enfin, voilà. J'ai trouvé que c'est une énorme facilité, la fin. Donc, ça m'a un peu gâché tout le truc. Hein. C'est dommage. Mais, c'est quand même une prouesse. Ça mérite d'être vu. Enfin, voilà. Moi, je le recommande quand même. Mais c'est pas... Voilà, si vous ne le regardez pas, on peut pas dire que vous ratez un chef-d'œuvre non plus, mais moi je suis en tout cas très content de lui avoir donné sa chance. Et je conclue, oui, avec la série Amsterdam Empire, Amsterdam Empire, sur Netflix, que j'ai vu, une petite série néerlandaise, que j'ai vu il y a un petit moment, mais dont j'avais oublié de parler, sur le patron d'une chaîne de coffee shop qui a fait fortune, et etc. Il va dire à sa femme qu'il veut la quitter pour une autre. Et elle va découvrir qu'en réalité, elle a été trompée, enfin bref. Et ça va très très mal se passer. Et elle va lui promettre de le détruire. De détruire sa réputation, son business, tout. Voilà, humainement, financièrement, elle va s'acharner. Et j'ai trouvé que c'était très très drôle. Enfin, très drôle. C'est très cruel, hein. C'est pas une comédie, hein. Mais il y a des moments où tu te marres parce que vraiment, waouh, ça tape fort. Et voilà, j'ai beaucoup aimé. Vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et ce coup-ci, j'ai terminé. On peut enfin enchaîner avec les questions reçues. Es-tu allé voir Marilyn Manson en concert à Paris? Et si oui, qu'en as-tu pensé? Alors oui, alors non pas à Paris, hein, avant, à Nantes. Et j'en ai parlé hein, sur mes réseaux d'ailleurs. Eh bien, moi j'ai beaucoup, beaucoup aimé. J'étais très agréablement surpris. Concert très court, mais ça ne me dérange pas du tout. Dans la mesure où Manson n'est plus tout jeune et où le concert est très intense. Je préfère une heure et demie d'un Manson en forme qui donne tout. Et où c'est très riche, ça va très vite. Il y a quand même pas mal de chansons. Après, les chansons sont pas très longues, c'est vrai. Une ambiance un peu sauvage punk, quoi, du coup. Que pour le principe, un truc de deux plombes ou 2h30, tout ça, où tu sens que le mec il est épuisé. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, moi j'en ai pris plein la gueule, mais pas que moi. Hein. Vraiment, tout le public était chaud bouillant, quoi. Quel bonheur. Quel bonheur et quelle émotion de retrouver Manson. Là, c'est vraiment le phénix, hein, parce que. Moi, je l'ai vu plein de fois en concert, mais enfin, la plupart, comment dire, contrairement à des jeunes qui pourraient dire, je l'ai vu il y a très longtemps, en 2002, bon, moi, je l'ai vu en 96, 97, donc là, c'est tout début à la Rapao, salle de 400 places, hein, je rappelle, et puis ensuite au Bataclan, et puis au Zénith, donc voilà, mais les premières tournées, donc voilà, j'ai vu voilà, toute la période pré-Antéchrist, enfin, Antéchrist aussi, et puis. Mechanical Animals, et je crois que c'est la dernière tournée où je l'ai vu, donc 98, un truc comme ça. Et après, je trouve que scéniquement, ça commençait à sentir mauvais, et puis bah, les dernières années, enfin, les dernières tournées, c'était une catastrophe. Je regardais les vidéos, ça faisait tellement mal au cœur de voir ça que, évidemment, ça coupait toute envie d'y aller. Quoi. Là, de belles retrouvailles, et surtout vocalement. J'avais eu des retours sur certains soirs où apparemment il n'était pas au top et où les gens étaient très déçus de son chant, et sachant que dans les années où il était complètement éteint, groggy par les drogues et l'alcool, avec un surpoids assez colossal, et où on voyait bien qu'il souffrait dès la fin de la première chanson, c'était très compliqué. Vocalement, je veux dire, enfin, et même physiquement, enfin, tout simplement, je me disais, ah mince, peut-être que finalement il n'a pas vraiment retrouvé sa voix tant que ça. Et alors, comment dire, c'est la loterie des tournées, des grosses tournées, c'est que tu peux tomber sur un très bon soir et puis tomber sur un soir où le mec n'est pas en forme et où ça va pas, ou j'en sais rien. Nantes, il était très en forme. Vocalement, la puissance vocale, c'était un vrai bonheur. Et apparemment, à Paris, la plupart de mes amis allaient le voir à Paris deux jours plus tard, ça a été pareil. Donc voilà, j'ai énormément apprécié ça faisait vraiment plaisir, quoi. Pourrais-tu donner les références des deux biographies de Michael que tu trouves sérieuses? Ah oui, attendez, alors. Je suis désolé, en fait, j'avais dit deux, mais je reviens avec quatre livres qui sont pour moi, voilà, après, je vais quand même dire lesquels, selon moi, sont les plus importants. D'abord, la biografie ultime de Randy Terabrelli, j'en ai parlé plusieurs fois, y compris dans mes vidéos spéciales Michael Jackson. Là, c'est la version, c'est mon livre, qui est la version donc, américaine de poche. C'est un putain de pavé, comme vous pouvez le voir. Mais il existe une version française que j'avais offerte à mon épouse. Donc voilà, donc chez Flammarion, voilà, pardon. Flammarion, Michael Jackson par Randy Terabrelli. C'est la biographie. Alors d'abord, l'auteur a connu Michael, ce qui aide beaucoup, mais sans être un proche de ouf. Mais il l'a connu enfant, enfin ado, je crois, et il a interagi avec lui, je crois, presque tout au long de sa vie. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, comment dire, c'est le bouquin, je trouve, hein, le plus équilibré dans le ton. C'est-à-dire que c'est ni pro ni anti. On reconnaît le génie, tout ça, machin, mais il décrit, enfin, il a beaucoup enquêté, évidemment, et voilà, il parle de tous les problèmes. Voilà, c'est un regard très juste, en fait, sur l'homme et aussi son parcours, quoi. Ça se trouve sûrement d'occasion, et si vous voulez avoir un regard voilà, un petit peu sérieux, en fait, sur Michael, ça c'est le livre référence, je trouve. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais moi j'en ai beaucoup, mais il y en a encore plus. Enfin, il y en a plein que j'ai pas lu parce que dès le truc, tu vois que c'est un projet mercantile qui est pas sérieux, enfin, ou qui est biaisé, enfin, bon, n'importe. Ensuite, j'aimerais recommander trois autres bouquins pour compléter ce truc central, vraiment pivot, qui est la bio. Alors, il y a ce livre, je vais par lequel commencer. Ce livre-là, et malheureusement, vous ne le trouverez pas en français parce qu'il n'a jamais été traduit. 83 Minutes. C'est un livre très particulier, qui est voilà, un gros bouquin quand même, hein, écrit par deux journalistes, Matt Richards et Mark Langthorne, qui ont fait un boulot vraiment de Columbo, quoi, sur les derniers mois de la vie de Michael Jackson, et qui ont fait des découvertes assez terribles. C'est un bouquin qui est... là, pareil, on n'est pas là pour dire... Ah mais c'est pas bien, il était dépendant aux opiacés, etc., etc. On est là pour enquêter. Et c'est passionnant. Donc c'est passionnant. Après, quand t'es fan de Michael, c'est dur à lire, quoi. Mais c'est d'un sérieux, c'est un level. Enfin, aux États-Unis, ça avait fait beaucoup de bruit. C'est bien dommage qu'en France, personne ne l'ait jamais traduit. Mais quand on est fan de Michael, il faut absolument avoir lu ce bouquin. Il y a peut-être des traducs pirates hein, sur internet, hein, après tout, pourquoi pas, je ne sais pas. En tout cas, ça c'est vraiment très 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 bon. Ensuite, deux bouquins moins importants que ces deux-là, enfin évidemment, mais celui-ci que j'aime énormément, Daffodil Jones, mais il est très connu. Et alors celui-là, vous le trouvez non seulement donc en français, comme vous voyez ici, hein, c'est la version grand format rigide, mais française. Mais ça a tellement cartonné que c'est en poche maintenant, en France, en français, pardon. Enfin, du coup, en France, du coup. Oh là là, cet homme est doué. L'histoire de cette journaliste américaine de tabloïd qui a assisté à tout le procès de Michael Jackson et qui, initialement, pour un milliard de raisons, était un peu une mérège en femme. C'est-à-dire que... non, mais je sais qu'il est... C'est un sale type, il a fait des trucs dégueulasses. Je sais. Et qui donc a commencé à couvrir pour son journal le procès et passer ses préjugés et ses certitudes reposant sur des préjugés, elle va regarder le truc et comprendre en fait d'abord se comprendre un peu pourquoi c'est une cible facile et aussi voir que visiblement il est innocent et donc ça pose problème sachant que en plus sa hiérarchie exige évidemment des articles à charge, donc c'est pas intéressant, ça fait pas vendre de dire que voilà, bref. Donc excellent boulot et c'est aussi un livre super intéressant sur le journalisme d'ailleurs, tout simplement. Celui-ci je l'aime beaucoup, mais il faut le prendre avec un peu plus de prudence. Frank Cassio, voilà mon ami Michael, dès le titre vous avez compris que voilà ça va pas être ultra objectif, mais c'est un très beau livre et c'est une voilà c'est un peu plus reposant on va dire à lire et quelques témoignages très touchants et très intéressants, même si Frank Cassio voilà faut être voilà, faire attention quoi. Voilà je suis allé ranger tout ce bordel. Je vois que j'avais au moins deux autres questions sur Michael que j'ai regroupées voilà, parce que je suis tellement compétent quoi. J'aime pas le dire parce que bon, ça fait un peu arrogant, mais hilarant. Je trouve atroce de dire que ce sont les accusations qui ont tué Michael Jackson. Purée, les amis, par pitié, prenez du recul. Imaginez ce que les gens penseraient de ce genre de propos. Je n'ai rien compris à ce message. J'ai rien compris du tout, mais je voyais pas de raison de... Enfin, en fait, je me suis dit peut-être que parmi mes abonnés, il y a des gens qui vont comprendre. Ils trouvent atroce de dire que ce sont les accusations qui ont tué Michael Jackson, alors que ce sont les accusations qui ont tué Michael Jackson. Donc voilà, je suis désolé de... Je sais pas. Et ça n'a rien à voir avec le recul. En fait, c'est même l'inverse. C'est en prenant du recul que tu réalises... Il y avait eu un superbe documentaire, je sais plus si c'était sur Arte. Mais même là... Hein... Ah non, c'était pas sur Arte, parce qu'il était en anglais. J'en avais parlé. Qui a été fait et sur sa mort et qui une sorte d'enquête hein, à nouveau avec beaucoup d'interventions de spécialistes et où ils sont tous d'accord. Je suis désolé pour toi hein, pour dire que les accusations ont joué un rôle colossal dans la mort de Michael Jackson évidemment. Après je pense que tu connais pas du tout assez bien le sujet pour savoir qu'en fait j'ai raison et que quand je dis que j'ai raison c'est pas moi qui ai raison, c'est que c'est les trois quarts des gens qui sont un peu compétents sur le sujet, même plus que les trois quarts en fait, disent que c'est les faits quoi, et je les rejoins parce que oui ça c'est un moment quand tu as accès quand tu regardes les dossiers et les événements tu peux pas tu peux te voler la face, mais enfin il y a un moment bref. Donc je suis désolé, mais c'est vrai que c'est atroce, hein, mais ce qui est atroce, c'est pas de le dire. Ce qui est atroce, c'est les faits, quoi, qui sont atroces. Michael, le biopic ira jusqu'au bas de tour, aucune allusion, donc ni aux affaires, et sans doute pas non plus à la dépendance aux antidouleurs, mais sa prise de médicaments ayant débuté après l'accident Pepsi de 84, à voir si ce sera évoqué tout de même. Je pense que je n'irai pas voir le film en salle, rien que d'imaginer les tapis rouges avec la famille Jackson, LaToya et Jermaine en tête, c'est nauséabond. Il me semble que c'est une remarque de mon ami Stéphane Mialet, j'en suis presque certain. Voilà, et j'avais noté parce que... Voilà, c'est important effectivement de dire que le film n'ira pas jusqu'au décès de l'artiste, ce que des gens auraient pu penser. Et voilà, alors on parle beaucoup du fait que si ça marche, il y aura un deuxième film. Alors, tout le monde a l'air convaincu que ce sera le cas. Moi, je suis pas convaincu. Parce que autant là, du coup, effectivement, en s'arrêtant au bas de tour, c'est pratique pour les States. Mais tout ce qui va suivre. Ça va être très compliqué de refaire un film de 2h30 en parlant pas de énormément de choses pas cool et sensibles. Et je sais qu'ils n'ont pas du tout envie de le faire. Donc pour moi, il n'y aura pas de deuxième film. Je peux me gourer, mais pour moi, il n'y en aura pas. Et s'il y en a un, là, ça va être très 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 chaud. Ça va être un carnage, je veux dire. Ils vont prendre vraiment des libertés pour contourner les trucs, quoi. Je pense que tu es avec John Ali le seul à dissocier l'artiste et vie privée. J'ai été choqué par les propos de Merej sur Michael. Il n'aime pas le film, ma femme l'adore, pardon. Ah oui, ma femme l'adore, pardon. Michael, sa vie privée, elle s'en fout. Excusez-moi, c'est parce qu'il n'y a pas de ponctuation. Moi, c'est Elvis. Ce sont deux monstres du show business avec énormément de talent. Impossible de leur enlever ça. Alors, dissocier ne veut pas dire qu'on en met un des deux sous le tapis, hein. Moi, quand je dis que je dissocie l'homme de l'artiste, je le fais même avec les gens qui n'ont pas de problème, hein. Je vois ce que je veux dire. Parce que tu peux pas. Enfin, on n'est pas l'artiste. Enfin, on n'est pas en mode artiste H24. Mais ça n'existe pas, en fait. Donc, il y a des gens où, par contre, oui, quand tu. Te penchent sur l'aspect de leur vie qui est hors performance artistique, travail artistique, etc. Bah, c'est une catastrophe. Il y en a où tout va très bien. Mais hein. Bon, voilà, je comprends, je connais la formule, quoi. Il y a dissocier l'homme de l'artiste. D'ailleurs, il y a des gens qui disent c'est pas bien. Mais en fait, c'est pas bien. Mais si tu dissocies pas, c'est que t'es fou. C'est que tu crois que le mec il se lève et en fait il est en mode artiste tout le temps. Donc bref, je sais pas si je suis le seul avec John Ali, franchement je ne crois pas, parce que je regarde certains youtubeurs qui parlent de Michael régulièrement, notamment des anglo machin, mais aussi quelques français, et ils dissocient complètement. Enfin, ils dissocient, mais pas pour une fois de plus, c'est pas pour se masquer les yeux ni rien du tout. Moi j'ai parlé pendant plus d'une heure de toutes les accusations et de tous les problèmes, et j'ai argumenté, etc., dans ma vidéo de 3 heures sur Michael Jackson que vous pouvez trouver. En tapant en recherche, et où alors on peut me reprocher des trucs, mais alors vraiment pas de me voler la face ou de ne pas aborder les sujets qui fâchent. Hein, voilà. Une vidéo, d'ailleurs, sûrement que Merej, je devrais regarder, mais alors, peut-être pas en entier, mais le passage en tout cas là-dessus, parce que. Mais voilà, je dis ça parce que en plus t'en parles. Je rêve vous tuer un mulet. Non, pas du tout, j'ai pas du tout de mulet, c'est long partout. Ça fait mulet parce que je les mets derrière, hein, mais tu vois. Allez hop, fini le mulet. Donc, non, non, ça pousse de partout. As-tu commencé Pluribus sur Apple TV? Oui, j'aurais pu en parler en intro, je l'ai pas fait. Pour le moment, j'adore. Voilà. Et pour rien vous cacher, d'ailleurs, ce soir, je regarde le 4e épisode qui vient de sortir aujourd'hui. Quel est ton avis sur la production littéraire de John Irving? Je ne connais pas, enfin, je connais de nom, mais je n'ai jamais lu. Jamais lu. Quelle honte! En film musical, plutôt Spinal Tap, Blues Brothers ou The Runaway? Oh, The Runaway, c'est le film que j'ai préféré. J'ai beaucoup aimé ce film. Donc, le groupe Runaway, donc, voilà, c'est un groupe de nanas qui faisait du rock très musclé, très énervé. Et où après, on a eu la carrière solo de Joan Jett. Et pour les fans de heavy metal, la carrière solo également de Lita Ford. Ensuite, je dirais Spinal Tap, le premier. J'ai entendu que, apparemment, le deuxième, il est nul à chier. Je lui donnerai sans doute sa chance quand même, mais bof. Je l'aimais vraiment bien. Et Blues Brothers, qui est un chef-d'œuvre, hein, j'ai pas trop aimé parce que j'aime pas la musique du tout. Et comme tous les passionnés de musique, quand un film est plein de chansons que t'aimes pas, tu passes un sale quart d'heure. Donc l'intrigue, tout, c'est vraiment excellent. C'est sans doute factuellement le plus grand des trois films, hein, de Blues Brothers, c'est intouchable. Oh, les chansons, c'est pour moi, hein, c'est insupportable, insupportable. As-tu connu le grandiose Depeche Mode? Depeche Mode. La fusion improbable des textes de Michel Delpech sur les musiques de Depeche Mode, ouais, ça me dit quelque chose. Oui, j'ai connu du coup, mais j'avais oublié, j'avoue. C'est comme une idée absolument géniale. Tu as vu le Frankenstein de Guillermo del Toro? Bah oui, du coup. Est-ce que tu sais que Bandai réédite également le Goldorak Jumbo? Ah oui, en version japonaise. Oui, tout à fait, j'ai vu ça. D'ailleurs, ça a été en rupture de stock immédiatement. Comme le Poppy avec sa soucoupe, là, le petit en métal que je devrais recevoir d'ici Noël. Mais le Jumbo, il ne m'intéresse pas. Mais il est magnifique, hein. Mais j'ai l'ancien, j'ai l'original. Et là, par contre, ça ne m'intéresse pas d'en avoir deux. Et puis, trop de souvenirs liés à ce truc-là. Voilà, vous avez vu, je vous en ai même reparlé dans la vidéo sur Kiss. Donc non, le nouveau, il est magnifique. Je comprends complètement que les gens se jettent dessus. Moi, à titre personnel, juste, ça m'intéresse pas. Je ne souhaite pas l'acquérir, tout simplement. Donc je ne suis même pas allé essayer de le trouver quand il a été. Mais maintenant, je trouve ça génial qu'il le fasse. Je trouve ça fabuleux. On en a rêvé pendant 40 ans, hein, qu'il le refasse. À l'identique, c'est quasiment l'identique. Il y a des petites modifs, comme pour le Poppy avec sa soucoupe d'ailleurs, il y a des petites modifs. Mais très très bien. Si en frottant chiffon à poussière, ah oui pardon, un de tes objets à l'effigie de Kisses Freley apparaissait en génie et t'offrait l'accomplissement de trois vœux, lesquels choisirais-tu? Des vœux, je suis nul à ce genre de truc, je sais pas trop. Je sais pas. Franchement, je vais dire de la merde. Donc, je préfère contourner. En parlant de Dwayne Johnson et de ses films légers, que penses-tu de No Pain No Gain, qui n'a rien de léger d'ailleurs? Est-ce que c'est son meilleur rôle? Moi, c'est le rôle que je lui préfère. J'en parle régulièrement d'ailleurs de ce film No Pain No Gain avec Mark Wahlberg. Et je les trouve tous les deux géniaux, j'adore ce film, il est excellent. Concernant le teaser du film Michael, ah bah tiens, j'ai oublié de la regrouper avec les autres. Ça me paraît un peu étrange de déjà deviner tout ce qu'il y aura dedans, rien qu'en regardant le teaser. Perso, John Logan, le scénariste du film, n'est pas, si on se fie à ses travaux antérieurs, Any Given Sunday, Aviator ou même Rango, du genre à cacher les aspects sombres d'un héros sous le tapis. Mais alors là, je suis complètement d'accord avec toi, parce que, alors le scénariste, par contre. Tu parles du scénariste. Le scénariste, il va faire ce qu'on lui demande de faire, hein, et on va lui amputer. Et peut-être qu'il en parlera plus tard. Hein, le nombre de scénaristes qui racontent une fois que le film est sorti que c'était pas du tout leur mouture. Voilà. Lui, s'il est comme tu dis, et je sais que tu as raison, et ben c'est juste qu'en fait, il a dû écrire. Bon, on le saura plus tard. Hein, des passages qui seront pas gardés, tout simplement. Voilà. Hein, il n'a pas tout pouvoir. Hein, il est que scénariste. Hein, c'est une commande. Hein, il est payé le mec. Hein, donc bref. Voilà. Et donc ça te permet. Alors, si, par contre, ça te permet de savoir, c'est pas du tout étrange du coup, de deviner ce qu'il n'y aura pas. Et moi, c'est ça que j'ai dit d'ailleurs, j'ai pas dit, parce que tu t'es de mauvaise foi. Un peu étrange de deviner tout ce qu'il y aura dans le film. Jamais dit. C'est vraiment un truc que j'ai jamais pensé et jamais dit, quoi, qu'en voyant un teaser, on devine tout ce qu'il y aura dans le film. Moi, j'ai râlé sur ce qu'il n'y aura pas. Et je te confirme qu'il n'y aura pas. Voilà, donc ça par contre, je le sais, donc ça n'a rien d'étrange. Voilà, malheureusement, hein, j'adorerais me tromper, en fait, hein, et que tu puisses me dire, ah, t'avais dit qu'il n'y avait pas Franck Di Léo, et on le voit pendant 2 heures, en fait. Bon. Je ne sais pas si tu as pu écouter Apocrypha d'Ascension, pardon, of the Watchers, ou si tout simplement tu n'as pas aimé. Non, j'ai pas écouté, je vois pas ce que c'est, j'ai dû oublier. Toutefois, il n'y a pas de raison pour que tu me fasses découvrir plein de choses et que je n'arrive pas à te rendre l'appareil au moins une fois. Ah oui, tu me cites deux autres groupes, Treatise et. Ah non, un groupe, Treatise et l'album Index. Et je n'ai pas eu le temps d'y aller, donc ce sera pour la prochaine vidéo. Voilà ce que c'est que d'être abonné à un incompétent. Ah bah ouais. Attends-tu le prochain et dernier album de Megadeth qui sort le 23 janvier? Oui, d'autant que j'ai pas du tout aimé le premier single, mais ça m'arrive de temps en temps avec Megadeth, c'est-à-dire qu'en fait, quand c'est en mode trop rapide, j'aime pas, je vous l'ai déjà dit. Et là, le tempo, waouh, c'est du Megadeth à la mitraillette, et donc c'est génial, hein. Je sais que plein de fans adorent, mais moi j'aime pas trop. Le deuxième single qui vient de sortir cette semaine à Glencairn, je crois, j'aime beaucoup, beaucoup mieux. Voilà, c'est beaucoup plus rock, voilà. Mais de toute façon, je suis super impatient et un peu ému aussi. Voilà, c'est le dernier album studio, c'est chaud, quoi. Selon toi, si Buckcherry était apparu pendant la seconde moitié des années 80, crois-tu qu'il aurait pu être aussi énorme que Guns N' Roses, Motley Crue, Skid Row à ce moment-là, sachant que ce groupe a eu un certain succès dans les années 2000 en jouant une musique plus typée fin des années 80 et en étant donc en décalage avec les autres groupes du moment, pardon. Je connais très très mal Buckcherry parce que j'ai jamais accroché, donc je suis vraiment mal placé pour juger. Tu vois, je serais tenté de dire que les compos que moi j'ai entendues de Buckcherry, de mon point de vue, elles n'ont pas la qualité de celles, par exemple, de Appetite for Destruction. Mais ça veut rien dire, enfin voilà. Et puis, C'est pas une réponse, enfin, ça veut pas dire que le groupe n'aurait pas pu devenir énormissime. J'ai l'impression quand même qu'il était assez populaire à une époque, mais il aurait peut-être pu atteindre des niveaux, enfin être numéro 1. Donc voilà. Mais je connais pas assez bien, je maîtrise pas assez bien le sujet. Imagine que l'aventure à Jean Gabin, Louis de Funès et Bernard Blier réapparaissent aujourd'hui. Comment réagirait-il d'après toi en voyant l'état actuel du cinéma français, la France 2025 au sens large du terme? Waouh, je pense qu'il serait dégoûté. Mais dégoûté. Et en fait, il serait choqué, il serait effaré. Mais pas au sens fun. Hein. Surtout Lino Ventura et Jean Gabin. Louis de Funès, je sais pas trop. Mais. Enfin, si, je sais en fait. Non, mais pareil. Ah, ce serait compliqué. Mais je pense qu'il serait désolé et triste. Vraiment, sincèrement. De voir. Pas seulement l'état du cinéma hein, français actuel, mais l'état même du monde actuel. Enfin, comment vivent les gens, quoi, les jeunes, comment. Enfin, ce qui est devenu la culture, enfin, je sais pas, putain, c'est chaud. Parmi tous les opus d'Indiana Jones, lequel est ton préféré? Oh, le premier. Je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est le second, mais moi, c'est le premier. Sans aucun doute. Dans les projets électro-frenchy, que penses-tu de groupes, pardon, comme Atom, je sais même pas comment on prononce, Atom, Sierra, je connais pas ces artistes, et j'ai pas eu le temps d'aller écouter. Bah, sortie de Justice et de quelques autres. Je suis plus trop à la page en fait, hein. J'écoute pas trop ces derniers temps, j'avoue. J'attends toujours que tu nous parles des titres de Zouk qui ont marqué ta vie. Je sens qu'il y en a plus d'un. Oh mec, si tu savais les titres de Zouk qui ont marqué ma vie, merde, je sais même pas quoi dire. Manka fouté yam bip. En tout cas, c'était la dernière question. Je vais m'arrêter là, j'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.